Au fil de l'eau, revient sur cette antenne radio judaïque. Devant l'eau profonde du fleuve, vous pouvez choisir différentes visions. Vous pouvez voir ou ne pas voir, au gré de vos envies. L'eau est immobile ou avec un courant, mais les fleuves, les rivières de notre belle région sont sans ambiguïté. Car si on veut voir, c'est magnifique, et si on veut entendre, c'est splendide.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux. Et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier d'eau douce, personne ne connaît la chanson du marinier.
Alors, nous allons découvrir ce monde de la batellerie et des mariniers à travers des rencontres, des reportages, des coups de cœur, beaucoup d'émotions au fil de l'eau. Embarquez. Alors, je suis content en ce mois de novembre d'accueillir Pascal. Comment est ton nom de famille ?
10.
Né en quelle année ?
En 1951.
Oh, 70 ans, frappant. 71 ans ?
Pas encore.
Bon, ah, pas l'anniversaire. Ah. Alors, quel signe ?
Sagittaire.
La sagesse. Activité actuelle ?
Et je suis retraité. Mais actif quand même, encore je travaille légèrement.
Est-ce que tu es pianiste ?
Absolument pas.
Alors, t'as pas, il n'y a pas de piano. Musique ! Tu sais, t'as deux... T'as... Voilà.
Quand on est pirate, il faut être acrobate et savoir grimper sans se casser le nez. Oh, is, oh, is, oh, eh. Et s'amuser, il n'y a rien qui batte la vie de pirate.
Alors, je sais que Pascal est un magnifique homme qui sait se déguiser. Je l'ai vu déjà en époque napoléonienne, je l'ai vu en pasteur, mais je n'ai jamais vu un jour au Brant en pirate. Et pourtant, cet homme est plein de richesses. Et il a un œil sur le numérique qui est particulier pour moi, car il a été un des grands du monde chez IBM, dans les années, je dis 76, parce que c'est à ces époques-là que j'ai pu l'identifier, sur un système qui s'appelait 365. Il n'était pas encore dans les majeurs des 370, mais peux-tu m'expliquer cette époque du 365 IBM, révolution au niveau de la PME ?
Alors, c'est une machine qui a été développée par les ingénieurs d'IBM, à destination de toutes les entreprises pour automatiser l'ensemble des tâches et avoir plus de performance administrative notamment. Et c'est une machine qui a eu beaucoup de succès. C'était l'époque des computers, c'était la Rolls des ordinateurs.
Et tu étais comment ? Tu étais à l'époque ce qu'on appelle un ingénieur Nobel.
Non, j'étais ingénieur commercial. IBM était divisé en plusieurs branches, il y avait la division matérielle de bureau, la division des systèmes de grande diffusion et la division ordinateur sur les gros systèmes.
C'était des seigneurs, je peux vous le dire, à l'époque, qui brillaient de tout feu. Et quand on disait que tu étais ingénieur chez IBM, les gazelles tombaient à flot sans hésiter.
Alors, c'est vrai que c'était un âge d'or, puisque à l'époque, quand on était reçu dans les entreprises, on était le monsieur qui connaissait l'ordinateur. On avait un tapis rouge qui était déroulé. On voyait généralement les PDG des boîtes. Et ce n'était pas, comme aujourd'hui, un business as usual, comme on dit. C'était un business tout à fait à la mode et dans le vent.
Absolument. Et alors, que peux-tu m'expliquer ? Parce que tu étais au premier temps du numérique avant les cartes perforées. Parce qu'avant, on appelait ça des opérateurs qui faisaient des cartes perforées. Alors, est-ce que tu as fait une formation comme celle-ci ?
Oui, on a eu 18 mois de formation chez IBM pour apprendre tous les systèmes, même la programmation avec des cartes perforées, ce qu'on appelait les tabulatrices. Et il y avait dans les entreprises qui possédaient des ordinateurs, tu avais des dizaines de perforatrices qui saisissaient les cartes perforées qui étaient mises une à une dans les machines.
Alors, pour les plus anciens, dans les années, il y avait les jeux télévisés des années 68, où il y avait le fameux jeu où on pouvait gagner, où il y avait les trous perforés et la carte sortait le gagnant.
Tout à fait.
Alors, c'est une belle époque, hein.
Si tu veux, on est toujours nostalgie d'une époque parce qu'on était plus jeune. C'est surtout ça qui est important. Et quelles que soient les époques, quand on revient en arrière, c'est toujours assez beau.
Alors, tu as vécu, toi, toute cette transformation parce que tu as connu la concurrence des petits appareils Astram, Commodore, Victor, qui sont venus les PC, qui ont commencé à grignoter votre fromage d'or.
Alors, si tu veux, l'histoire des gros systèmes informatiques, c'est un peu comme des dinosaures qui ont disparu sous l'effet de la miniaturisation. À l'époque, les gros systèmes informatiques étaient refroidis à eau. Les machines faisaient 4-5 tonnes. Ça reposait dans des salles blanches de plusieurs centaines de mètres carrés. Hein, au Crédit Mutuel, par exemple, il y avait des machines... ça faisait 500 mètres carrés, la salle machine. Et ça pesait plusieurs tonnes. Et pour la petite histoire, quand on récupérait, dans une deuxième vie, j'ai fait du brokerage sur des gros systèmes informatiques, quand on récupérait les grosses machines qui étaient inutilisables, il y avait quand même plusieurs kilos d'or à l'intérieur. Et je sais que j'ai racheté des machines pour les faire fondre et récupérer l'or.
Alors c'est là où on voit Pascal, l'entrepreneur né, le diversiteur d'un ensemble de choses, parce que tu as égrené 1000 métiers. Attends, mais ta formation, je suis un peu étonné. Sciences Po a mené à cela ?
Tout à fait, parce que Sciences Po menait à tout. En fait, j'étais un peu atypique dans la catégorie des ingénieurs commerciaux, puisque j'étais dans une salle des ventes où il y avait un Supélec, un Centralien, un HEC... un polytechnicien, et j'étais le mouton noir, parce que j'étais une formation littéraire.
Ouais, prison, Sciences Po, Strasbourg.
Oui.
Et Ascension, hein. Pas n'importe quel, Strasbourg, les gènes de cela. Alors, bien sûr, nous allons basculer bientôt dans d'autres espaces de ta vie, et nous allons écouter le premier morceau. Ce premier morceau incite quoi pour toi que tu as choisi ?
Alors, c'est lequel ? C'est Adinsel ou
oui,
c'est...
Adinsel, voilà.
Le Concerto de Varsovie, qui est un morceau merveilleux, un morceau qui a une sonorité classique, et en fait, qui a été composé en 1940. C'est une musique de film, un film américain. Il y avait une demande particulière pour Adinsel, qui était un compositeur à la mode, et il devait...
Allez, on va écouter. On peut y aller. Musique, maestro.
Thank you.
Alors, cette musique a quand même une note de modernité, excusez-moi. Après un repas, c'est toujours comme ça, il y a un peu de difficulté dans la prononciation. Mais bon, on est en direct et on va pas se cacher. C'est joli comme musique et ça n'a rien à voir avec le XVIIIe siècle.
Non, c'est une musique de film, comme on a fait de... Aujourd'hui, on se souvient du concerto de Varsovie, on se souvient absolument plus du film. Hein, et ouais. Ça fait partie de ces musiques intemporelles, à l'instar de celles qu'a pu faire Ennio Morricone ou...
Absolument, c'est
musique. Maurice Jarre. Voilà.
Pourtant, t'es un jazzy, toi, t'es jazzman.
Je suis un amateur de jazz.
Jazz,
ouais.
Amateur de jazz. Alors, on bascule comme ça. Je pense que t'étais un féru. Bon, je sais que t'as un service militaire très sportif, du côté de Grenoble, skieur, mais pas chasseur alpin, tu m'expliqueras ça. Mais je pense que tu étais un adepte de Fusalpes.
Oui, j'ai porté du Fusalpes, évidemment, qui a été une marque qui était fabriquée à Strasbourg. Et c'était la...
Et tu avais des échoues aux pieds.
J'ai eu des échoues.
Et tu avais des Stratos.
J'ai eu des Stratos, bien sûr.
Incroyable. Vous savez qu'on a un skieur émérite. Il semblerait que les Yétis des Alpes... Alors, des Alpes suisses, attention, hein, des Alpes suisses, parce que oui, la Séville, ses plus belles godilles, c'est dans un magnifique massif, grâce à sa compagne, sa femme de l'époque, où il y avait son beau-père qui avait un lieu de vigilature. Dans quel massif?
Dans l'Oberland bernois, à Engelberg.
À Engelberg. Et c'est là où tu as sévi ces godilles fantastiques.
C'est une station merveilleuse qui était à l'époque à 2h30 de Strasbourg. Maintenant, elle est à 3h avec les limitations de vitesse. Et c'est une station où on monte à plus de 3000. Il y a 2000 mètres de dénivelé, ce qui est rare dans les Alpes. Il y a peut-être 10 stations dans les Alpes qui ont 2000 mètres de dénivelé non-stop. Un hors-piste magnifique. Et c'est sport merveilleux, le ski.
Alors, il avait la godille serrée où les quarts fusaient d'étincelles, car il skiait très serré. Que penses-tu de la voile technique avec ces skis paraboliques, toi qui connaissais des skis quasiment de 1,97
Non, j'ai skié même avec du 2,15 m. En compétition, en slalom géant, on avait du 2,15 m. Et alors, le ski qu'on pratiquait... a évolué quand même considérablement, notamment au niveau du matériel, puisque les skis larges ont permis une autre approche, beaucoup plus facile pour...
Le tourner du cul.
Le tourner du cul, enfin c'est le tourner des genoux, c'est le basculement des genoux.
Allez, parce que les skis paraboliques, on dit que c'est le tourner du cul. Ouais.
Alors ça a permis à des tas de gens de progresser rapidement, les skis paraboliques et les skis larges, de pouvoir leur permettre de sortir un peu des pistes. Alors qu'avant, le faire du hors-piste avec des skis de 2,15 m dans la poudreuse, il fallait avoir une très bonne technique. Alors c'est très bien pour le plus grand nombre. Pour des gens comme moi, c'est un peu triste parce que les pentes vierges sont un peu battues partout par beaucoup trop de monde. Et il faut aller chercher la poudre de plus en plus loin.
Alors Dominique, tu sais que... Pascal, je suis un ignoble parce que moi je suis un surfeur, donc je suis un...
Mais oui, le surf a été très bien pour des gens qui voulaient profiter des joies de la neige et qui ne voulaient pas passer par l'apprentissage quand même du ski qui est assez technique. Et le surf est beaucoup plus facile, ce qui a permis son très grand succès. Maintenant, on en revient, puisqu'avec les skis larges, les skis paraboliques, on arrive à avoir les mêmes sensations et avoir un apprentissage beaucoup plus facile.
Alors, est-ce que tu peux faire une similitude entre l'évolution des ordinateurs et du ski? Tu as eu deux passions, tu as eu deux travails très importants dans ta vie, et il y a une similitude de l'évolution quand même.
Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que quand j'arrivais au boulot le matin, tous les matins, je me disais, qu'est-ce qu'on a inventé cette nuit? On avait un progrès technologique qu'on voit encore aujourd'hui hein, sur l'amélioration des performances des ordinateurs, sur les nouvelles techniques d'impression couleur, sur le progrès a été fantastique. Le progrès a été fantastique. En ski, ça a été quand même plus limité. Mais le métier que j'ai fait, c'était un métier de renouvellement permanent. Et parfois, je me disais le matin en arrivant, j'ai dit, si on arrêtait pendant quelques jours d'inventer des choses nouvelles, mais ce progrès technique a apporté beaucoup d'avantages aux gens. Maintenant, ça devient une évidence tous les jours. Mais quand on regarde son smartphone, c'est carrément extraordinaire. Les smartphones qui est devant moi, eh ben, il est plus puissant que le 365 qui pesait 5 ou 6 tonnes. On a un truc qui fait 100 grammes, c'est extraordinaire.
Alors, Pascal, j'ai encore une question à te poser, mais là, de vraiment professionnel. Es-tu Chapelle Dynastar?
Écoute, je les ai tous eus, je pense. J'ai mangé quand même beaucoup, beaucoup de ski. Et bon, j'en ai encore quelques collectors. Actuellement, ben, je suis allé chercher les skis. Et mon cahier des charges, je voulais les skis les plus légers qui soient, les chaussures les plus légères. Donc là, pour le moment, j'ai des Dynafit. Et puis, des chaussures Salomon très légères. Et ça change considérablement. Parce qu'avant, les skis étaient quand même assez lourds. Et là, je suis dans le léger.
Alors,
je suis plus très fort.
On voit cette courbe que tu fais magnifique, où la gerbe de neige fraîche illumine le soleil. Et nous allons écouter ton deuxième morceau que tu as choisi, qui est...
Alors, c'est un morceau de Shirley Bassey, Propeller Head, History Repeating.
About there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Parce que ça date de quelle année, sache que je découvre. C'est qui c'est ?
Alors, Shirley Bassey, qui était l'interprète inoubliable de Goldfinger, a été en contact avec le groupe Propeller Head, qui était un groupe de jazz avancé, un groupe allemand qui avait une musique très tonique, comme on peut l'entendre. Et elle a été sollicitée pour enregistrer ce morceau. Et pour moi, c'est génial.
C'est génial. C'est ce que tu mets dans ton Walkman quand tu skis ?
Non, je ne mets pas de musique quand je skie, quand je cours ou quand je fais du vélo.
Ah, je
profite des instants. Je ne veux pas être un autiste.
Je comprends. Alors tu sais que ça passe vite.
Hein. Ouais.
C'est au fil de l'eau, ça s'égrène à une vitesse. Le courant est fort quand c'est intéressant. Alors bon, bien sûr, l'informatique n'a été qu'une étape dans ta carrière. Je ne veux pas parler celle d'hôtelier, J'appellerais celle de l'auditeur. Celle de l'éditeur. T'as été éditeur.
J'ai été éditeur de logiciels avec une start-up que j'avais, dans laquelle j'étais entré dans le capital en 2000, qui s'appelait InfoLig. Et nous avions un logiciel Internet Pager qui faisait de la messagerie instantanée, de la téléphonie sur IP. On avait un métacrawler, c'est-à-dire un moteur de recherche qui s'indexe sur tous les moteurs de recherche qui allaient plus vite que Google. J'avais deux associés géniaux, un russe, Alexandre Kuznetsov, et un autre, Bernard Lebovici, qui étaient deux esprits supérieurs. Et on était trois sociétés au monde à bénéficier de cette technologie. On était les seuls Européens à avoir cette technologie. Et donc en 2000, début 2000, comme le projet était immense, j'avais sollicité les gros investisseurs français, Pinault, Arnaud, Sophie Nova. Pinault mettait 15 millions de notre boutique pour développer le logiciel. Et en avril 2000, il y a le crack du Nasdaq. Et là, il n'y a plus personne. Alors, j'avais des copains qui ont eu des boîtes qui vendaient n'importe quoi, qui ont touché des dizaines de millions pour de la daube. Et nous qui avions un projet extraordinaire, on n'a pas pu le mener jusqu'au bout parce que, à 6 mois après, c'était
la roulette russe.
C'était pas la roulette russe, c'était Golden Glaoui.
Alors écoute, il y a dans les sites internet qui sont aujourd'hui, il y a une nouvelle technique et je vais vite en parler. On appelle les éco-consommateurs de ces sites internet qui, soi-disant, baisseraient sur les codes, la consommation. Es-tu au courant de cette nouvelle technique qui est en train d'arriver qui...
Oui, je suis assez sceptique. Il y a beaucoup quand même de tarte à la crème pour amuser les gens. Moi, j'ai essayé de lever des fonds à l'époque, donc j'ai beaucoup fréquenté les investisseurs, beaucoup vu de comparaisons avec des gars qui vendaient de la daube, mais qui le vendaient très bien et qui ont escroqué des tas de...
Alors, dans les investisseurs, je bascule comme ça, je fais une ellipse sur le ski. Tu te souviens des fixations bataille qui étaient un bras, ou Nova qui était un bras, il n'y avait plus de fixation, tu mettais la chaussure directe et c'était ta cheville qui était prise par une espèce de bras. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une évolution sur les fixations, toi qui es... Ou aimes-tu toujours cette bonne fixation?
Les fixations, l'important c'est qu'elles soient sécures. Et qu'elle se déclenche, si tu veux, ça ne sert à rien d'avoir une bonne fixation si elle n'est pas bien réglée. Donc ça, c'est à vérifier. Ce qui est important pour moi, c'est le poids. C'est pour ça que j'ai choisi des fixations les plus légères qui soient, à partir du moment où elles se déclenchent si je tombe.
Alors la Nevada Look a été pour toi quand même une belle évolution.
La Nevada Look, ça c'est l'histoire.
C'est mythique.
C'est mythique, c'était la fixation de mon idole Jean-Claude Killy.
Et aujourd'hui, tu as quoi comme fixation? Tyrolien?
Non, j'ai du marker.
Marker.
Voilà. C'est bien. J'ai failli prendre des fixations de rondeau pur et dur, mais bon.
Bon, c'est bien. Alors, moi qui voulais te vendre une fixation avec une dérive, que quand tu appuies, la dérive se met et le ski tourne tout seul, je pense que c'est pas encore le client que j'aurais. Alors, bien sûr, on arrive vers la fin, voilà. J'étais content de t'accueillir. On a fait un petit tour, comme ça, sur ta vie professionnelle. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire en conclusion, toi?
En conclusion d'une vie professionnelle, je pense que j'ai fait un métier passionnant qui était tous les jours renouvelé. J'ai eu beaucoup d'autres activités à côté. Je pense que j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait 2 fois 35 heures par semaine à une période de ma vie.
J'ai un autre invité que ça va plaire, ça. Ouais. Les 2 fois 35 heures, ça va plaire, ça, je le reciterai.
Je ne le ressentais pas comme une fatigue, si tu veux, parce que les autres activités que j'avais, que ce soit dans le monde associatif ou dans le monde professionnel sur d'autres activités, que ce soit le textile, où j'étais administrateur d'une boîte textile, ou
l'agence de voyage. Alors, nous allons avoir le générique fin, tu sais, on est limité dans le ton, donc on va entendre le générique de fin qui va nous charmer nos oreilles. Voilà, c'est comme ça, au fil de l'eau, ça passe. On n'est pas à quai, on est au fil de l'eau. Merci Pascal.
Merci Marc-Paul.
Et au plaisir.
Avec plaisir.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux. Et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier l'eau douce, personne ne connaît.